Voilà, donc on va parler de chasse hein, aujourd'hui, puisqu'on a une petite habitude maintenant depuis quelques années, c'est d'aller voir avant l'ouverture ce qui se passe sur la chasse. Et on est avec Hugues Giraud, qui est un technicien à la Fédération de chasse. Hugues, bonjour.
Bonjour.
Alors bientôt la ouverture, puisque c'est ce 13 septembre. Alors tout d'abord, on va faire un petit bilan. Parce que chaque fois que vous en envoyez, puis c'est assez sympa de savoir un peu ce qu'il y a sur le territoire. Alors j'ai vu qu'il y avait 5 390 permis, c'est ça?
C'est ça, oui, pour la saison 2025-2026.
Ouais,
Donc,
c'est.
la saison est écoulée, et puis là, les chasseurs sont encore en train de valider les permis. Il y en a qui valident très tôt, et puis d'autres qui vont le faire encore en cours de saison.
Alors vous parlez également des territoires de chasse, donc ils sont au nombre de 297. Alors il y a des ACCA, bon, on connaît. Il y a des associations intercommunales de chasse agréées. Alors ça, c'est pour quelle raison que c'est comme ça?
Alors bien souvent c'est des territoires où il y a peu d'adhérents et ou alors une bonne entente entre deux territoires qui les incite à se regrouper. Donc au lieu d'avoir deux ACCA distinctes, on
Ah,
les
d'accord.
fusionne pour faire une association intercommunale de chasse agréée.
Oui, puis on a les chasses ONF, alors ça c'est des chasses réservées en fait.
Oui, voilà, c'est le domaine public du coup, hein, les forêts publiques qui doivent être chassées aussi, notamment pour la régulation des cervidés qui commettent quelques dommages à la forêt.
Et les chasses privées, alors ça c'est. Il y en a 30 quand même, hein, c'est pas mal.
Une trentaine de chasses privées en Haute-Loire donc on est un département ACCA obligatoire et à partir du moment où un propriétaire dispose de 40 hectares d'un seul tenant, il peut faire opposition à l'ACCA et constituer sa chasse privée, se réserver le droit de chasse en fait sur ses propriétés.
D'accord. Et alors bon, on voit qu'il y a 10% de la surface minimum, vous dites mise en réserve de chasse. C'est des réserves qui sont faites là où on n'a pas le droit de chasser. 50 000 hectares, ça représente.
Oui, voilà, comme on est un département ACCA obligatoire, chaque ACCA a une obligation de mise en réserve de 10% du territoire.
Ah, c'est chaque
Donc,
ACCA en fait, hein? Ouais.
oui, chaque ACCA, oui.
D'accord. Et ça représente en
Voilà.
tout 50 000 hectares.
En fait, on a fait le calcul
À
tout
peu
bête,
près.
hein, que la Haute-Loire représente en gros 500 000 hectares, donc on a une ACCA par commune, grosso modo, et donc ça représente 10% du département, quoi.
Et alors, les ACCA, elles ont combien de surface? Celles qui sont les plus grosses, ça peut arriver jusqu'à combien de surface?
Alors la plus grosse commune du département, c'est Saint-Jean, qui est suivie de près par Sogg, qui sont des communes de plus de 8 000 hectares.
D'accord. Donc là.
Voilà, et la taille moyenne d'une commune en Haute-Loire, grosso modo, c'est 2 000 hectares.
Donc interdit de chasser, là. 400 en réserve. Non.
Là, je vous parle de la surface de la commune.
Oui.
Donc, comme Yssingeaux, par exemple, eh bien, il faut que la commune d'Yssingeaux ait au minimum 10% de cette surface en
Ah oui,
réserve de
encore
chasse.
10% de la
Donc, ça fait une
surface.
réserve de chasse de 800 hectares, quoi.
Ah oui, d'accord. Bon.
Voilà.
Alors bon, les jours de chasse sans chasse, c'est les mardis et vendredis. Ça, c'est pour un peu préserver
Oui, voilà, c'est l'arrêté préfectoral qui prévoit 2 jours où la chasse du gibier sédentaire est interdite. Donc c'est les mardis et les vendredis. Donc ça, c'est l'arrêté préfectoral, c'est la mesure départementale. Et bien souvent, les territoires de chasse sont plus restrictifs que ça et rajoutent des jours de fermeture.
Alors, bien sûr, il y a l'histoire du permis de chasse, parce que maintenant, il faut passer un permis. Et on voit que vous avez déjà eu 118 candidats qui ont décroché. Et dans les semaines à venir, en octobre et novembre, il y en a encore. On peut s'inscrire déjà.
Oui, on peut s'inscrire à l'examen du permis de chasser tout au long de l'année. Et là, pour 2026, du coup, il reste encore deux sessions à venir, une en octobre, une en novembre. Donc, il est toujours temps de s'inscrire au plus vite, hein, parce que avant de passer l'examen, il faut suivre des formations et obligatoirement. Et ces formations, elles sont prévues début octobre. Donc voilà, pour ceux qui prendraient idée de s'inscrire au permis de chasser, pour le passer en octobre ou novembre, il faut s'inscrire très rapidement pour pouvoir suivre les formations dès début octobre.
Il y a longtemps que ça se fait, ces formations-là?
Alors le permis de chasser dans sa forme actuelle, c'est depuis 2003 quand même, où il y a une épreuve théorique et une épreuve pratique, un peu à l'instar du permis de conduire, hein, avec le code de la route et puis les heures de conduite. Voilà, depuis 2003, du coup, il y a des formations obligatoires, théoriques, pratiques, suivies d'épreuves.
Oui, donc ça permet peut-être, bon, j'ai vaguement parcouru le dossier de presse, on voit quand même qu'il y a moins d'accidents de chasse qu'à une époque. Ça, c'est, il y a une liaison, il y a
Alors,
oui.
oui, bien sûr, en partie, la diminution des accidents de chasse, c'est lié au permis de chasser, notamment, puisque ça intègre la partie pratique, elle intègre elle est axée sur la sécurité et la manipulation des armes. Mais la diminution du nombre d'accidents, elle est aussi liée au fait des efforts faits par les fédérations avec la mise en place d'autres formations, sur la communication aussi qui est faite, et puis sur la mise en place de mesures de sécurité qui sont de plus en plus nombreuses, et de plus en plus mises en pratique aussi sur le terrain.
Ok, ben ça c'est bien de le savoir, hein. Alors, j'ai découvert un truc, moi c'est vrai que je savais pas qu'en Haute-Loire on avait des daims.
Oui, alors c'est assez récent, hein, ça fait quelques années, c'est assez localisé, hein, c'est sur l'est du département, en limite de la Loire, où on a une petite population de daims qui s'est installée et puis qui se développe. Alors comme à beaucoup d'endroits en France, elle est issue d'animaux qui étaient en captivité et se sont échappés, hein. Le daim, c'est un animal qui est souvent détenu en captivité, mais qui a tendance à s'échapper. Et les individus qui s'échappent, ben après, ils arrivent à créer quelques petites populations. Donc il y a un plan de chasse qui a été mis en place dans le département de la Loire depuis quelques années.
Oui.
Et cette population, elle se développe et aujourd'hui, elle déborde chez nous en Haute-Loire.
Voilà, bah ça fait une espèce de plus, quoi, on va dire. Puis c'est,
Oui, tout à fait.
disons que c'est assez joli en plus, un daim, donc voilà.
Oui,
Et
c'est un bel animal.
ouais. Alors, on parle beaucoup de cailles, moi, avec des amis qui chassent, et vous dites que les cailles, ça revient un petit peu.
Alors c'est une espèce de petit gibier, oui, pour laquelle les effectifs sont très fluctuants d'une année sur l'autre. Et cette année, on a une bonne surprise, c'est qu'il y a eu une abondance de cailles pendant la période de reproduction. Ça faisait quelques années où c'était un peu moins bien. Et puis là, cette année, ça a été assez exceptionnel, notamment sur les zones de montagne. Là, le Massif central en a été bien concerné. Dans d'autres pays d'Europe aussi, ça a été constaté. Et du coup, là, c'est des oiseaux qu'on va pouvoir trouver pendant la saison, pendant encore quelques jours ou quelques semaines, puisque c'est un migrateur qui va rejoindre l'Afrique dans les semaines qui viennent
D'accord.
pour passer l'hiver.
Alors c'est vrai qu'en toutes les années, il y a un peu le problème. Alors vous m'aviez dit l'année passée que le lièvre était un peu en recrudescence. Ça continue?
Oui, alors du coup, ça, pour le lièvre, on fait des suivis des effectifs reproducteurs. Donc ça se passe au printemps. On fait ça sur l'ensemble du département. Donc les résultats qu'on obtient montrent que les espèces, les populations, elles se portent pas trop mal. Alors après, on a quand même quelques soucis au niveau de la survie des jeunes. les animaux se reproduisent, mais il y a beaucoup de jeunes qui disparaissent, ce qui fait qu'on a des taux de jeunes dans les tableaux de chasse qui sont assez faibles. Donc ça, c'est mesuré en fait par des prélèvements des yeux de lièvre qui sont tués à la chasse et qui permettent de déterminer l'âge des animaux. Et on s'aperçoit que le taux de jeunes, il est assez faible. Donc on est en train de travailler, essayer d'identifier les causes de ce manque de jeunes dans la population.
Oui, parce que
essayer de savoir pourquoi on a si peu de jeunes dans nos tableaux de chasse.
La reproduction est moins importante que chez les lapins, Garenne.
Non, pas tout à fait. Ah en bon fait, c'est deux espèces du coup de la même famille.
Oui.
Qui produisent beaucoup. Et la période de reproduction pour le lièvre, elle est encore plus grande que pour le lapin de Garenne. Le lièvre, il se reproduit quasiment toute l'année.
D'accord.
On a des hases qui arrivent en chaleur dès le mois de décembre. Et ça jusqu'au mois de septembre.
Ouais,
pour le lapin, c'est un peu plus réduit. Mais la production de jeunes par portée et le nombre de portées pour le lapin ou pour le lièvre, il est à peu près similaire.
Ah d'accord, bon, ben ça, j'apprends quelque chose, je ne le savais pas. Alors bien sûr, on a parlé des cailles. Bon, il y a le faisan et la perdrix. Alors le faisan, c'est que c'est beaucoup de lâchés. Ils n'arrivent pas à se reproduire. Il y a une cause ou pas?
C'est des oiseaux qui sont issus d'élevage, hein, souvent,
oui.
Donc qui ont des fois perdu un petit peu d'instinct pour se reproduire. Malgré tout, il y en a qui y arrivent. Et puis après, on est quand même un département où l'altitude complique un petit peu les choses pour ces espèces de petits gibiers.
Et les perdrix, vous m'avez dit que c'était un peu revenu aussi à une époque.
Alors les perdrix sur les plateaux du Velay, là en Haute-Loire, on a une population sauvage, entre guillemets, de perdrix, pour laquelle les chasseurs produisent beaucoup d'efforts et tentent de la maintenir. Malgré tout, il a fallu procéder à des repeuplements, des renforcements de population pour la sauvegarder. Là, on est en train de réceptionner les résultats des comptages qui ont été faits dans l'été. Donc, on n'a pas encore d'éléments pour déterminer si la saison de reproduction a été bonne ou pas.
Alors, oui,
quelques échos de terrain qui semblent corrects, mais bon, ça nécessite d'analyser ça précisément.
Puis, je crois que, si je ne dis pas de bêtises, qu'à un certain coin de la Haute-Loire, ils avaient interdit la chasse une saison ou deux, non?
Oui, tout à fait. Là, alors ces repeuplements dont je viens de vous parler, ils sont opérés sur trois saisons et les saisons qui suivent, justement, on suspend la chasse de façon automatique. Et là, pour cette année, il y a des territoires qui vont pouvoir reprendre si tant est que les résultats de la reproduction soient corrects. Voilà, donc c'est ce qu'on va analyser. Hein. Les chasseurs vont nous retourner les bilans des comptages qu'ils ont effectués et on va mesurer le taux de reproduction. S'il est bon, on va pouvoir autoriser à chasser un petit peu avec des quotas. Et s'il n'est pas bon, on ne chassera pas.
Alors bien sûr, on arrive au gros gibier. Hein. On avait parlé des cerfs. J'avais été surpris de savoir qu'à Haute-Loire, il y en avait recensé près de 800. Alors ça a peut-être augmenté encore. Depuis l'année passée, non?
Oui, alors ces 800, c'était sur une opération de comptage précise. Sinon, ils sont bien plus nombreux que ça dans le département.
D'accord.
Puisque le nombre de bracelets qui vont être délivrés pour la saison à venir, là, 2026-2027, du coup, c'est près de 1500.
Ah, quand même.
Donc forcément, pour pouvoir en prélever à peu près 1500, il y en a quand même beaucoup plus.
Ouais, et puis surtout ils se sont déplacés un peu. Avant c'était surtout, on va dire, du côté de l'Allier, hein, par là, l'Angeac, tout ça.
Oui.
Et là maintenant on sait que c'est remonté chez nous puisque on en a pas mal dans la région. Hein. Il y en a qui se sont fait abattre, hein, d'ailleurs.
Oui.
Et pour les chevreuils c'est pareil. Il y a beaucoup de chevreuils.
Alors les chevreuils, par contre, la population est relativement stable. Si pour le cerf, on constate encore une progression au moins géographique. Les effectifs qui se portent bien également. Pour le chevreuil, ça fait plusieurs années où on est sur une phase de stabilité. Il n'y a pas une grosse évolution. Alors, c'est pas linéaire partout sur le département. Hein. Il y a des secteurs où on constate des augmentations, d'autres, à l'inverse, des diminutions. Et globalement, sur l'ensemble du département, on est relativement stable.
Alors, on sait, c'est pour terminer, dans ce qui est le gros gibier, le sanglier. Alors ça, c'est actuellement, on chasse beaucoup le sanglier. Est-ce qu'il y en a toujours autant? Est-ce qu'il diminue?
Non, là aussi, les effectifs sont assez contenus pour le sanglier. En Haute-Loire, on a un département où le nombre de prélèvements est très limité. Hein, on est à moins de 3000 pour la saison passée, là, à peine 2800 pour être précis. Et donc c'est bien contenu. Après, on a un département qui est sensible puisqu'on a de la culture partout. Ouais. Donc, on en entend beaucoup parler parce qu'il commet des dégâts, notamment sur les maïs ou les prairies.
Ouais, bon. Et alors, aussi, parce que, bon, pas besoin de vous dire qu'on a eu un été caniculaire, est-ce que ça a une influence et ça peut jouer sur la faune?
Alors, on n'a rien, nous, qui nous permette de dire que la faune est vraiment pâtie de la sécheresse. Les chasseurs, ils ne vont pas attendre dimanche pour aller sur le terrain. Hein, ils sont sur le terrain toute l'année, y compris quand la chasse est fermée. Et là, on n'a pas eu de remontée d'observation d'animaux morts ou en difficulté par rapport à la sécheresse. En Haute-Loire, on a un réseau hydraulique qui est quand même très développé. Du coup, l'accès à l'eau, même s'il y a certains cours d'eau qui ont pu s'assécher, il reste possible. Donc la prise de mesure nous a pas paru impérative. Ça peut être le cas des fois quand on a des vagues de froid, à l'inverse, où là on a des observations d'oiseaux affaiblis, par exemple, et où la fédération a pu à plusieurs reprises solliciter la suspension de la chasse pour une période de 10 jours. Mais là, a priori, ça s'avère pas forcément nécessaire, quoi.
Alors, pour les chasses plus confidentielles, je sais qu'il y en a qui chassent à l'arc.
Oui.
Il y en a beaucoup ou pas?
Alors, il y en a quelques-uns. Chaque année, on propose une formation chasse à l'arc. Donc, pour être chasseur à l'arc, il faut déjà avoir le permis de chasser classique, on va dire. Et en plus, suivre une formation spécifique qui dure une journée. Donc, chaque année, à cette formation, participe une vingtaine de candidats. Bien souvent, alors certains sont spécifiquement chasseurs à l'arc, et puis d'autres pratiquent également la chasse avec des armes à feu. Il y en a quelques-uns, ça se développe, et puis ça séduit pas mal de chasseurs quand même.
Bah, disons que c'est la vraie chasse d'antan, quoi.
Tout à fait, ouais, la proximité avec l'animal est bien plus grande, puisque
c'est obligatoire,
les distances de tir sont très très limitées. C'est des tirs à une vingtaine de mètres maximum.
Et puis bon, on va parler bien sûr, puisque ça, c'est traditionnel chez vous aussi, c'est la nuit du brame. Alors, c'est toutes les années, hein, là, ça va être... Alors, il y a plusieurs dates, en fait, hein, vous avez mis 3 dates, hein.
Oui, tout à fait. Cette année, on va proposer 3 dates pour aller découvrir le brame, pour ceux qui ne connaissent pas, ou ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur l'espèce. Donc, on les a répartis sur différents secteurs du département, donc à l'Eyras, sur le Haut-Allier, Pébrac, près de Langeac, et puis Blesle. Et au cours de ces soirées, donc qui sont gratuites, on présente l'historique de l'espèce au niveau national et puis en Haute-Loire, sa biologie. Donc c'est l'occasion d'en apprendre pas mal sur cette espèce. Et c'est des soirées qui sont proposées gratuitement, à chaque fois pour un nombre limité à une vingtaine de personnes par soirée.
Oui, donc il faut s'inscrire obligatoirement, hein.
Oui, s'inscrire obligatoirement auprès de la fédération, donc par téléphone ou éventuellement par mail.
Bon, on a pris encore beaucoup de choses. Alors, juste pour terminer, puisque je dirais pas que ça fait le buzz tout à fait, mais on commence à entendre parler un peu des gens qui voudraient qu'on retarde l'ouverture de la chasse. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes là-dedans toute l'année?
C'est par rapport aux problèmes de sécheresse ou de canicule, hein, où les associations de protection de la nature ont voulu tenter de saisir cette opportunité pour occuper un peu l'espace médiatique, on va dire. Mais comme je vous ai dit, nous, on est quand même sensible à la préservation des espèces qu'on chasse, mais également d'autres espèces. Et pour la situation actuelle, ça nous a pas préoccupé particulièrement. À nos yeux, ça ne nécessite pas la suspension de la chasse. Mais
oui.
Aujourd'hui, on va dire que tout est bon un petit peu pour tenter de mettre à mal les chasseurs, quoi.
Oui, non, mais c'est vrai que on le voit avec cet entretien qu'on a. On voit quand même que vous occupez beaucoup de la faune. Et finalement, si vraiment il y avait un problème, je crois que même vous seriez prêt à réagir. Donc là, je pense que, ouais, comme vous dites, c'est pour se mettre...
Tout à fait,
ouais.
Oui, les chasseurs sont quand même responsables. Pour exemple, l'année dernière, on a eu une ACCA qui avait noté, qui relevait une diminution forte de la population de lièvres sur son territoire. Derrière, on a mis en place des suivis qui ont permis de rassurer et de voir qu'en fait les animaux étaient présents quand même sur le terrain, il n'y avait pas de situation alarmante dessus. Mais voilà, les chasseurs, ils ont l'œil sur ce qui se passe sur le terrain et ils sont capables de réagir. On n'a pas besoin de leur dicter ce qu'ils ont à faire, quoi.
Très bien. Alors si on n'a pas parlé, oui, peut-être pour terminer, des prédateurs, alors on parle beaucoup. Alors le renard maintenant est protégé, non, il n'y a pas quelque chose?
Non, pas du tout. Il est le simplement cet été il y a l'arrêté ministériel qui définit la liste des espèces classées ESOD, c'est-à-dire espèces susceptibles d'occasionner des dommages. Donc c'est un arrêté ministériel qui définit une liste d'espèces pour chaque département.
D'accord.
Et là, du coup, on a récupéré le classement ESOD du renard, à l'exception d'une quarantaine de communes.
D'accord.
Donc voilà, sur l'ensemble du département, à l'exception d'une quarantaine de communes. Du coup, ça, c'est ce qui va permettre ensuite, lorsque quelqu'un est victime de prédation sur ses volailles, par exemple, de faire intervenir un piégeur et d'essayer de solutionner le problème. Voilà. Donc, ce classement ESOD, en rien, il ne va avoir pour objectif de détruire une espèce. Hein, c'est simplement solutionner un problème qui peut être ponctuel.
Oui, parce que des fois, quand on parle avec des gens, ils disent « Ouais, mais on se plaint qu'il y a beaucoup de mulots, qu'il y a bien trop de trucs, et les renards en sont friands. » Alors, ils comprennent pas parfois pourquoi on voulait les éradiquer.
Tout à fait, oui. Tout à fait. Alors, le renard, il joue un rôle de prédateur, hein, dans la nature. Il n'est pas du tout spécialiste des campagnols. Il en consomme, c'est certain. Mais c'est un prédateur qui est opportuniste, généraliste. Il consomme également des fruits, des vers de terre, tout un tas d'autres petits animaux. Et les micro-mammifères, c'est une partie de son régime alimentaire. Mais c'est pas les populations de renards à nos yeux qui peuvent limiter une population de campagnols. Et puis les campagnols, c'est aussi les proies de nombreuses autres espèces,
et puis les oiseaux,
les carapaces notamment,
ouais,
les belettes, les hermines, etc.
Ouais, ouais.
Qui bien souvent là sont des prédateurs spécialistes.
Ouais. Ok. Eh bien, écoutez, Hugues, merci d'avoir été avec nous. Ça me fait toujours plaisir. Moi qui ne suis pas chasseur.
Avec plaisir.
Moi, je ne suis pas chasseur, mais j'ai beaucoup de copains chasseurs. Et puis, c'est bien de faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas que... La chasse, c'est pas que des viandards, hein, pour résumer le truc. Hein, parce que...
Oui, bien souvent, on résume ça à l'action,
ouais,
de tuer un animal. Et
ouais,
en fait, c'est
ouais,
beaucoup d'autres choses.
D'accord. Eh bien, écoutez, merci bien d'avoir été avec nous. Puis, bonne saison de chasse. Hein. Merci.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.